un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Bercy revoit ses prévisions et annonce un déficit de 5,1% du PIB en 2024. Pour rectifier le tir, il faudra encore trouver 10 milliards d'euros cette année, en plus de ceux déjà économisés. Nous analyserons ces annonces avec Marie Viennot. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise donne raison au collectif On veut des profs. Il condamne l'État pour les heures perdues par des élèves de l'Académie de Versailles en raison du non-remplacement de professeurs. Nous nous pencherons sur ce dossier avec Florence Turm et Hakim Kasmi. Après 8 ans de discussions, les eurodéputés parviennent à s'entendre sur le pacte asile-immigration. Une étape majeure vient donc d'être franchie. Nous joindrons Angélique Bouin à Bruxelles. Enfin, nous irons en Corée du Sud où l'opposition semble en passe de remporter une large victoire au Parlement. Une claque pour le président Yoon. Le gouvernement réévalue sa prévision de déficit pour 2024. Selon les données du nouveau programme de stabilité de la France, présenté par le ministère de l'Économie, le déficit est désormais évalué à 5,1% du produit intérieur brut. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Pour compenser ce dérapage, avec l'objectif de revenir sous les 3% de déficit en 2027, il va falloir trouver 10 milliards d'économies supplémentaires dès 2024, en plus des 10 milliards déjà gelés en février. Alors comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre, Marie ?
Alors, l'argument est le suivant. Les 10 milliards de février sont pris sur des réserves que l'on prévoit en plus généralement dans le budget de l'État pour faire face à des aléas. Les montants du gel par ministère ont déjà été précisés par décret. À écouter Bercy, c'est déjà fait, c'est plus un souci. Les 10 milliards en plus, ils seraient répartis ainsi. 5 milliards sur les dépenses de l'État, mais là encore, nous dit-on, pas de problème, car il reste encore 8 milliards d'euros dans les crédits mis en réserve. 2 milliards et demi viendraient des collectivités locales et le troisième bloc, ce serait des taxes sur des situations considérées comme anormales et exceptionnelles, type les profits des énergéticiens ou, Bercy l'a même évoqué, les rachats d'actions. La difficulté, on le voit déjà pour les 10 milliards de février, c'est que les ministères annoncent des coupes bien réelles pour ne pas puiser dans leurs réserves de précaution. On s'en est fait l'écho ici, notamment dans la culture. L'Opéra de Paris, la Comédie Française doivent revoir leur budget. La prime rénov', c'est 1 milliard d'euros d'aide en moins. Dans certaines administrations de contrôle, on prévoit de réduire les déplacements et donc les interventions, etc., etc. Autrement dit, geler les crédits mis en réserve n'est pas indolore et trouver 15 milliards rien que pour l'État en 2024 ne sera pas simple. Idem pour les économies projetées pour les collectivités locales, puisqu'elles ont dit, pas plus tard qu'hier, qu'elles n'y étaient pas prêtes. Quant à la taxation des rentes, rien n'est fait, le débat commence à peine. Or, c'est si et seulement si ces 20 milliards d'économies sont réalisées que le déficit pèserait 5,1% du PIB en 2024. Combien faudra-t-il en trouver en plus pour atteindre les 2,9% en 2027, comme promis toujours à la Commission européenne? Eh bien là-dessus, Bercy a préféré ne pas donner de chiffres en euros.
Alors le programme présenté aujourd'hui par Bercy peut-il satisfaire la Commission européenne à qui il s'adresse et les agences de notation qui vont le scruter? Pour Éric Ayer, que vous avez interviewé, Marie, Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques, écarter systématiquement la piste des augmentations d'impôts n'est pas forcément de nature à les rassurer.
Il me semble que ce que demandent et la Commission européenne ou les agences de notation, c'est que des efforts structurels soient faits, que ces efforts émanent de réduction de la dépense publique ou d'augmentation des prélèvements obligatoires. Là, c'est au gouvernement à décider. Et on voit bien que augmenter les prélèvements obligatoires, ça a d'un côté quelque chose de très positif pour la Commission ou pour les agences de notation. C'est quand vous augmentez la pression fiscale, vous avez des recettes supplémentaires. Et ça, c'est indéniable. Quand vous le faites par la dépense publique, par contre, vous n'êtes pas sûr finalement de faire ces économies. Et donc, en tant que qu'engagement, l'augmentation des prélèvements obligatoires est bien plus assurée en termes d'économie et donc va plutôt rassurer les agences de notation ou la Commission européenne. Dans l'opinion publique française, c'est pas la même chose. Effectivement, lorsqu'on augmente la pression fiscale, on touche au pouvoir d'achat des ménages. Alors, si c'est sur la TVA de tous les ménages, si c'est sur l'impôt sur le revenu des ménages les plus aisés, mais c'est beaucoup moins populaire que jouer sur quelques dépenses publiques. On a toujours l'impression, surtout quand c'est sur le chômage, que ça ne nous concerne pas, même quand on est salarié.
Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Convié hier au lancement de la concertation sur la réforme de la fonction publique, les syndicats sont aujourd'hui en colère. Ils n'apprécient pas les déclarations de Stanislas Guérini ce matin sur France Inter. Le ministre de la fonction publique a estimé que le dispositif permettant de licencier des fonctionnaires était très mal défini et surtout extrêmement peu appliqué. La CGT a rapidement répliqué sous la forme d'un préavis de grève qui couvre notamment la période des JO cet été. Gabriel Attal semble cet après-midi vouloir calmer le jeu. L'année 2024 ne saurait être l'année de la casse du statut de la fonction publique, a déclaré le Premier ministre à l'Assemblée. Le gouvernement, dit-il, laissera tout le temps à la concertation. Le chef du gouvernement a de son côté suscité l'incompréhension avec la taxe dite lapin, cette taxe de 5 euros que devraient payer les patients n'honorant pas leurs rendez-vous médicaux. 27 millions de rendez-vous ne sont pas honorés donc chaque année, ce qui équivaut à un mois d'activité libérale. Mais le principe de cette taxe comme la méthode sont interrogés. La plateforme Doctolib se dit défavorable au prélèvement bancaire obligatoire, préalable à la prise de rendez-vous en ligne. Et sur le fond, Talita Thiraud, les médecins sont partagés sur le sens même de cette taxe.
Selon un sondage de Doctolib auprès de plus de 13 000 patients, trois causes sont à l'origine des rendez-vous non honorés. L'oubli du rendez-vous, l'impossibilité de l'annuler et l'incivilité. Cette dernière désespère Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre.
On entend souvent dire « mais vous allez taxer des gens qui n'ont pas les moyens, c'est une honte ». Sauf que c'est pas les patients CMU qui font ça. Hein. En général, c'est des jeunes, 25 ans, cadres, qui n'ont pas forcément de médecin traitant. Ils prennent le rendez-vous à 15 jours parce qu'ils trouvent rien de plus proche. Entre-temps, ils trouvent un médecin libre à 7 jours, ils effacent pas l'autre.
Jérôme Marty est également médecin généraliste. Chaque jour, entre 1 et 4 rendez-vous ne sont pas honorés. C'est une perte financière non négligeable pour lui.
La consultation est à 26,50 €. Donc ça fait 260 € par semaine. Ça fait 1000 balles par mois. Regardez. Et il faut bien donc que le médecin soit quand même indemnisé de l'argent qu'il perd par le comportement incivique de certains patients. Quoi.
Les patients devront payer cette taxe en ligne. Problème, 15% des Français ne savent pas se servir des outils numériques. Franck De Vulder, président de la Confédération des syndicats médicaux français, propose donc 3 autres solutions.
La première, donner aux médecins la possibilité de refuser les rendez-vous d'un patient qui a déjà pris un rendez-vous chez un autre médecin de la même spécialité. La deuxième, permettons que ce SMS de rappel soit associé à une possibilité de répondre. Tapez 1 si vous confirmez votre rendez-vous. Et puis enfin, il y a des spécialistes des lapins parmi nos patients. Eh ben, on puisse stopper la possibilité d'accès à nos agendas à ces personnes qui relèvent de l'incivilité complète.
Selon Doctolib, grâce à leur plateforme numérique, les médecins ont 2 fois moins de rendez-vous non honorés.
Le projet de loi sur la fin de vie a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. La grande nouveauté de ce texte, c'est que pour la première fois, certains patients pourront demander à un médecin d'être aidé à se suicider, mais cette assistance au suicide ne pourra être accordée qu'à de multiples conditions. Le patient devra notamment être atteint d'une pathologie incurable qui menace ses jours à court ou moyen terme. Une formulation jugée trop floue par les spécialistes de la fin de vie. L'État condamné pour le non-remplacement de professeurs dans l'académie de Versailles. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait été saisi dans le cadre de l'opération On veut des profs. Un collectif de parents d'élèves a engagé en 2022 des poursuites contre l'État pour dénoncer les innombrables heures perdues par les élèves en cas d'absence de professeurs. Plus de 340 requêtes ont été déposées dans 20 académies. Bonsoir Florence Thuram.
Bonsoir.
Le tribunal de Cergy-Pontoise vient donc de donner raison au collectif dans l'académie de Versailles.
Oui, cela constitue une première victoire judiciaire pour le collectif. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise retient la responsabilité de l'État dans 8 des 12 dossiers présentés. C'est le cas d'une adolescente scolarisée à Villeneuve-la-Garenne, privée de 107 heures d'enseignement obligatoire, anglais, français, mathématiques notamment, alors qu'elle était en classe de 6e et de 39 heures l'année suivante en 5e en raison de l'absence de différents professeurs. Dans son jugement, le tribunal administratif note d'ailleurs que l'Académie de Versailles n'était pas présente à l'audience pour faire valoir ses propres arguments. Il n'a pas ainsi justifié de nécessités inhérentes à l'organisation du service. Carence de l'État, estime donc le juge, carence qui a fait perdre à cet élève une chance de réussir son année. Raisonnement identique pour une autre enfant de CE2 dans une école de Cergy-Pontoise. Elle a perdu 30 jours de classe avec, consacre le jugement, un retard conséquent dans ses apprentissages. L'État est condamné à verser 150 euros aux familles au titre du préjudice subi, une somme symbolique, regrette leur avocate, mais le fondement de la décision reste important au regard des affaires encore à venir dans d'autres juridictions, d'autant que le tribunal s'appuie sur une décision du Conseil d'État qui date de 1988, un cas individuel similaire où le ministre de l'Éducation nationale avait engagé un recours mais sans succès. L'enseignement est une mission d'intérêt général. Le manquement à cette obligation légale est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, avait conclu le Conseil. À l'époque, il avait alloué 1000 francs à la famille du collégien pour 7 heures hebdomadaires de cours perdus.
Merci Florence Durme. Cette condamnation par le tribunal administratif est bien sûr accueillie comme une excellente nouvelle par les parents d'élèves de l'Académie de Versailles, l'une des académies où il y a le plus de professeurs non remplacés, Hakim Kasmi.
Pour Sylvaine Perel, membre du collectif On veut des profs et à l'origine de la plainte, cette condamnation est une bonne nouvelle et un véritable soulagement, à la fois pour les parents d'élèves, mais aussi pour les enseignants.
Le rectorat a émis un avis sur les dossiers qui ont été déposés par les parents, les familles au tribunal administratif et avait mis en avant qu'il n'y avait pas lieu d'avoir une action en justice, car en fait les élèves avaient l'un dans l'autre d'assez bonnes notes, puisqu'en fait le rectorat a quand même demandé aux établissements des élèves dont les familles avaient déposé un dossier, les bulletins de notes des élèves.
Actuellement, 15 millions d'heures sont perdues chaque année selon le ministère de l'Éducation, faute de professeurs remplaçants. Pour y remédier, le ministère de l'Éducation comptait sur le pacte, sauf qu'une grande partie des enseignants qui le choisissent, seulement 25% cette année, ne privilégient pas en priorité les heures de remplacement de courte durée, mais plutôt les accompagnements pédagogiques, comme le souligne Elisabeth Alain Moreno, la secrétaire générale du SEUNSA.
Le dispositif du pacte ne répond pas à la commande présidentielle puisque malgré sa mise en œuvre à partir de septembre 2023, on a autant de problématiques de remplacement et en particulier dans le second degré alors que c'était son objectif premier.
Alors, pour tenter d'y remédier, le ministère prévoit pour la rentrée des mesures contraignantes afin d'inciter les professeurs à choisir les remplacements de courte durée lorsqu'ils prendront le pacte.
Hakim Kasmi, le groupe de BTP Vinci réclamait près d'1,6 milliard d'euros à l'État pour l'abandon en 2018 du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Mais la justice vient de rejeter sa demande. Bonsoir Véronique Reberotte.
Bonsoir.
Le tribunal administratif de Nantes estime que l'État n'a pas commis de faute et n'a donc pas à être condamné.
Oui, l'État n'a commis aucune faute en abandonnant pour des motifs d'intérêt général le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce sont les mots du tribunal administratif de Nantes pour accompagner cette décision. La juridiction estime que l'abandon de l'aéroport, décidé donc en janvier 2018, a été décidé en prenant à la fois compte de la situation de blocage née, je cite, des fortes oppositions et intenses divisions autour du projet et en prenant en compte aussi les réalités économiques des transports et de l'organisation aéroportuaire, lesquelles avaient changé depuis la conception du projet il y a 50 ans. Le ministre de l'écologie de l'époque, Nicolas Hulot, avait parlé, lui, d'impasse, estimant qu'il était temps de passer à autre chose. On ne peut plus laisser sans liser des dossiers contestés pendant des décennies, avait dit Nicolas Hulot. Le site était occupé, rappelons-nous, depuis 8 ans par des militants écologistes, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Le PDG de Vinci déclarait, lui, en 2018, avoir eu l'assurance que le gouvernement n'allait pas chercher des clauses qui lui permettraient d'échapper à une indemnisation. Détenu à 85% par Vinci, c'est la société AGEO, Aéroport du Grand Ouest, société concessionnaire, qui réclamait la somme de 1,6 milliard d'euros. Mais le tribunal a dans le même temps ouvert la porte à une éventuelle indemnité couvrant les dépenses du groupe BTP dans ce projet et son manque à gagner. Le montant de cette indemnisation sera fixé ultérieurement.
Véronique Reberotte. Les négociations duraient depuis 8 ans entre les 27 membres de l'Union européenne. Depuis la crise des réfugiés de 2015, inquiets de la hausse des demandes d'asile, ils se divisent sur la politique migratoire à mener entre solidarité et fermeté. Les eurodéputés se sont vus soumettre aujourd'hui le pacte migratoire, une dizaine de législations lors d'une mini-session plénière à Bruxelles. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir.
Ce texte qui a tant fait débat est donc finalement adopté.
Oui, adopté après des heures de vives tensions ici. Et ce sont les trois principales familles politiques européennes, la droite, les sociodémocrates et les centristes, qui ont permis ce vote. Mais les eurodéputés français socialistes et LR n'ont pas voté l'ensemble de la réforme, l'ensemble des textes. Ces textes durcissent les conditions d'entrée dans l'Union. Ils obligent les pays de première entrée à mieux identifier les demandeurs d'asile et à retenir dans des centres près des frontières ceux dont la demande a peu de chances d'aboutir. En échange, les autres États européens s'engagent à relocaliser au moins 30 000 d'entre eux chaque année. Fabienne Keller est eurodéputée française macroniste, rapportrice de l'un des textes clés. Elle avait appelé à la responsabilité de tous avant ce vote jugé crucial pour organiser enfin, dit-elle, la politique migratoire de l'Union.
Ce pacte ne résoudra pas tout, mais c'est un pas en avant, un pas de géant vers un réel contrôle et une bonne gestion humaine de l'immigration en France, en Europe et sur notre continent.
Une réforme contre laquelle s'est battue en revanche l'extrême droite, l'eurodéputé français du RN, Jordan Bardella, estime qu'elle organisera, je le cite, une submersion.
Nos pays seront contraints d'accueillir des milliers de migrants dans leurs villes et villages, ou bien payer et payer cher pour en être épargnés. Bruxelles veut répartir, nous voulons faire repartir.
Pour bien d'autres raisons, les Verts et l'extrême gauche européenne ont voté également contre ces textes. L'eurodéputé belge Saskia Bricmont estime que c'est sous pression justement de l'extrême droite européenne que certaines dispositions qu'elle juge inacceptables ont été introduites.
Vous allez céder à la rhétorique de l'extrême droite, pour qui il ne sera jamais suffisant de refouler, jamais suffisant d'enfermer des enfants avec leur famille à nos frontières, de ficher des enfants dès l'âge de 6 ans.
Voilà, cette réforme doit encore faire l'objet d'un vote formel par les États, mais ce serait normalement une formalité pour une entrée en vigueur en 2026.
Angélique Boin en direct de Bruxelles. Le ramadan s'est achevé sous les frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Il n'y a ni répit ni parenthèse dans la guerre pour le premier jour de l'Aïd. Depuis Ramallah, Alice Roussard a pu recueillir les témoignages d'habitants de Gaza qui tentaient de célébrer l'Aïd comme ils le pouvaient.
Dans une cuisine de fortune à Rafah, des femmes sont regroupées. Salma nous raconte qu'elle emballe des pâtisseries dans des petits sacs de plastique.
Nous avons fait des cakes. Ce sont les petits gâteaux que l'on prépare pour l'Aïd. Même si on est en peine dans nos cœurs, c'est notre manière d'essayer d'apporter de la joie dans le cœur des autres. Que Dieu nous protège et donne à nos familles, nos voisins, un peu de réconfort.
Cette année, le premier jour de l'Aïd a une saveur particulière à Gaza. Pas de célébration, pas de nouveaux habits ni de jouets pour les enfants aujourd'hui. Plus qu'un autre jour, les Gazaouis ressentent les absents, car l'Aïd est une célébration familiale. Beaucoup ont perdu un père, une sœur, un enfant dans les bombardements.
On se ment à nous-mêmes pour tenir. On se dit chaque jour que ça ira mieux ensuite, mais ce qui arrive est chaque jour de pire en pire.
La plupart n'ont surtout rien à manger, ni la place mentale pour célébrer. Voilà pourquoi Rada tenait à l'initiative.
Même si la situation économique est compliquée, que c'est la guerre, avec ma belle-sœur, on a voulu se réunir avec des femmes pour cuisiner et ensuite distribuer ces cakes. Pour beaucoup, c'était une manière de ramener de la normalité. Les jeunes nous ont fourni les ingrédients, la semoule par exemple, mais c'est très cher, 100 shekels le kilo.
Toutes espèrent une chose, que pour le prochain Aïd, la guerre sera terminée.
Alice Froussard. Et le chef en exil du Hamas, Ismaël Haniyeh, a perdu trois de ses fils dans une frappe aérienne israélienne aujourd'hui dans la bande de Gaza. Deux de ses petits-enfants ont également péri, un troisième a été blessé. Ismaël Haniyeh déclare que ces décès ne changeront rien au pourparlers en cours sur un accord de trêve à Gaza. Le Hamas doit envoyer sa réponse à une nouvelle proposition de cessez-le-feu. En Corée du Sud, les premiers sondages de sortie des urnes donnent une large victoire de l'opposition à l'issue des élections législatives. Ce scrutin ressemblait à un référendum pour ou contre le président Yoon Suk-yeol et il semble se diriger vers un grave revers pour le président. Son parti était déjà en minorité au Parlement, il pourrait reculer encore et offrir donc une très large majorité à l'opposition, Nicolas Roca.
Des intelligences artificielles qui mettent en scène des candidats en livreur à scooter se battant pour attraper un train en marche ou bien en pleine course de patins à roulettes. Comme d'habitude, les animations des chaînes de télévision sud-coréennes ont su rendre l'attente jusqu'au résultat définitif plus divertissant. Même si la victoire de l'opposition démocrate ne fait pas de doute, Choi Chung-sik, secrétaire général du parti.
Nous sommes très reconnaissants à la population d'avoir donné au parti démocrate une victoire écrasante lors du vote anticipé.
L'ambiance était différente du côté du parti présidentiel Han Dong-un, leader des conservateurs.
Nous avons fait de notre mieux pour gouverner en respectant la volonté du peuple, mais les sondages de sortie des urnes sont décevants. Malgré tout, nous continuerons à nous tenir aux choix exprimés par les électeurs et à observer le décompte des voix.
Le faiseur de roi pourrait être l'opposant Chokuk, dont le parti espère obtenir une dizaine de sièges à l'Assemblée.
Vous, le peuple, êtes les véritables protagonistes de la victoire de ces élections générales, car vous ne pouvez plus assister à la dictature du procureur Yoon Seok-yeol.
Une déclaration quelque peu hâtive, car l'enjeu est de connaître l'ampleur de la victoire de l'opposition. Si elle obtient les deux tiers des sièges, elle sera en mesure de contraindre le président à l'immobilisme jusqu'à la fin de son mandat en 2027.
Nicolas Roca à Séoul pour France Culture. Le temps sera nuageux demain au nord de la Loire et humide de la Bretagne à la frontière belge, mais ailleurs, le soleil s'imposera largement. Les températures de 0 à 10 degrés au petit matin. L'après-midi, il fera de 17 à 24 degrés du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.